Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Que sait-on au juste de la Russie aux États-Unis? Voilà la question que vous posez ce matin.
Ben, les Américains le confessent, ils ne comprennent rien à la Russie. Il y a 30 ans, toute bonne université avait son département d'études slaves et les thèses de soviétologie étaient financées par le département d'État ou bien par la CIA. Mais la fin de la guerre froide a mis un terme à cette curiosité et à cette soif de savoir et à présent, la Russie agace les Américains et ils s'en désintéressent. Les russophones sont devenus aussi rares en Amérique du Nord que la loutre de mer et autres espèces en voie de disparition. C'est pourquoi le livre que vient de publier Joshua Yaffa, Between Two Fires, donne lieu à des recensions enthousiastes. Depuis 2013 en effet, ce journaliste couvre l'actualité russe pour le New Yorker. Et dans la revue Foreign Affairs de février, Michael Kimmage écrit que la façon dont Yaffa travaille en profondeur ses sujets lui permet de replacer les choses dans leur contexte, révélant ainsi les schémas historiques et sociologiques profonds qui étayent ce pays notoirement plein de contradictions. Fin de citation. Alors pour coller à son sujet, Yaffa a procédé par une accumulation de portraits de Russes d'aujourd'hui, toutes générations confondues. Et sa première observation est d'importance. Non, décidément, les Russes ne sont pas comme nous autres Américains. Sous prétexte qu'ils se sont mis à boire du Coca-Cola il y a 30 ans, nous n'avons jamais cessé d'attendre qu'ils commencent enfin à nous ressembler et à nous suivre. Eh bien, cela n'arrivera jamais, car la trajectoire russe est non occidentale. S'en persuader évitera de nouvelles désillusions. L'aspiration politique dominante des Russes, c'est l'autonomie, la souveraineté nationale, et cela explique d'ailleurs pourquoi la majorité d'entre eux a suivi Boris Yeltsin et non pas Mikhail Gorbatchev en 1991. Il n'y avait pas que les Baltes, les Ukrainiens ou les Géorgiens pour vouloir se débarrasser de l'Union soviétique, non, les Russes aussi voulaient un pays rien qu'à eux. L'empire multiethnique d'Union soviétique que Gorbi s'acharnait à vouloir sauver, leur était devenu un fardeau. Pour Yaffa, l'histoire russe depuis la dissolution de cette Union soviétique s'est déroulée en trois actes. Et ces trois strates d'expérience politique accumulées expliquent l'état moral de la société. Dans les années 80 et 90, grâce à la perestroïka et à ses suites, la Russie a fait l'apprentissage d'une liberté jusqu'alors inconnue. Mais le pays dérivait entre un passé soviétique plein de souvenirs et d'habitudes de vie et un avenir russe encore indéterminé, d'où l'aspect chaotique de cette période de transition. Et elle a laissé de très mauvais souvenirs en Russie.
Et Brice, le deuxième acte commence avec l'an 2000, lorsque Poutine est désigné par Yeltsin pour lui succéder.
La Russie eut alors le sentiment de sortir du chaos et des privations. Poutine offrait d'une main la prospérité, de l'autre la répression. Ce n'était pas la dictature non plus, mais une manière de contenir la liberté dans les marges, là où elle ne risquait pas de gêner la mainmise du pouvoir sur le pays. La Russie soufflait, elle connaissait la stabilité, l'avenir redevenait prévisible. Le troisième acte, eh ben nous y sommes. Les choses ont commencé à paraître plus fragiles. Les inégalités explosent. La classe moyenne est sous pression. Et Poutine vieillit, malgré les liftings. La société russe hésite entre sérénité, puisque la Russie est stable et ne dépend de personne, et l'exaspération. Le régime est ultra corrompu. Eh bien, celui de ces deux sentiments qui l'emportera donnera le ton du prochain acte. Poutine écrit « Joshua Yaffa est moins le ravisseur du pays qu'une manifestation de son inconscient collectif. Or, ce qu'il y a dorénavant dans l'éthos russe, c'est ce qu'il appelle, d'un mot anglais intraduisible, la « wiliness », l'ingéniosité, si vous voulez, la roubardise, l'art d'user de subterfuges pour se débrouiller. Leurs expériences historiques extrêmes, puis le règne de Poutine, ont appris aux Russes à s'ajuster aux contraintes avec opportunisme. Ce n'est ni le cruel apprentissage de l'arbitraire totalitaire, ni la mémoire de l'héroïsme des dissidents qui structurent le paysage. La plupart des Russes ne sont ni du côté de Staline, ni de celui de Solzhenitsyn, écrit Yaffa. Ils veulent pouvoir mener leurs affaires privées, se débrouiller. Tant que Poutine leur en laisse l'opportunité, ben, ils le laisseront monopoliser le pouvoir et puis s'enrichir, lui et ses amis oligarques. Mais Poutine n'est pas le personnage principal du livre de Joshua Yaffa. Ce qui l'intéresse, ce sont ces Russes dont il dresse le portrait, comme par exemple ce créateur sibérien d'un musée du Goulag. Il est parvenu à ouvrir son musée en 1996 et plusieurs expositions émouvantes ont pu y avoir lieu. Puis, en 2014, l'État a pris le contrôle du musée, en a exclu les fondateurs et le musée du Goulag a été transformé en musée de la Grande Guerre patriotique. Une transition emblématique. Dans la Russie de Poutine, les institutions émanant de la société civile ont vocation à être absorbées par le régime, sinon elles cessent d'exister.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.